ces axes stratégiques et l'agriculture écologiquement intensive. Je voudrais d'ailleurs exprimer au nom de Terrenal le plaisir qu'on a de participer à notre modeste niveau, à la fois financièrement et puis par les contributions d'un certain nombre de nos collaborateurs, à la réalisation et au fait que ce type de manifestation continue d'avoir lieu. Ces réunions d'échange et de partage sont toujours, même si on n'est pas tous d'accord, et tant mieux, nous permettent d'avancer et de faire progresser les solutions qu'on peut apporter à nos agriculteurs. Donc, effectivement, au niveau de Terrena, le choix de l'agriculture écologiquement intensive remonte à 2008, donc je vais y revenir tout à l'heure. Mais pour vous présenter le secteur de Terrena, pour ceux qui ne sont pas de la région, vous avez ici une carte de l'ouest de la France, avec ici, je ne sais pas si vous voyez bien le petit point rouge, mais le plus à l'ouest, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Vienne et les Deux-Sèvres. Donc, ils sont les quatre départements principaux de présence de Terrena, avec l'ensemble des points que vous avez ici, qui sont nos points de collecte, nos magasins agricoles, donc sur l'ensemble de la zone d'activité. Donc, une coopérative agricole, c'est d'abord un territoire avec des limites géographiques, bien sûr. Terrena, en quelques chiffres, le chiffre d'affaires au niveau de 2012, c'était 4,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 22 000 adhérents, 12 000 agriculteurs qui travaillent avec nous, 538 millions de fonds propres et puis un résultat aux alentours de 10 millions. Si on regarde là l'ensemble du groupe, vous avez ici le reflet avec un chiffre d'affaires et le pourcentage de chiffre d'affaires de ce qui est relatif aux productions animales et aux productions végétales. Donc, vous voyez, 70%, ça c'est la dominante du chiffre d'affaires de Terrena dans le domaine animal, puisque quand on a des abattoirs, quand on a des animaux qui rentrent, ça représente un chiffre d'affaires relativement important. Si on redescend dans le périmètre coopérative, aux alentours de 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires, on a un chiffre d'affaires qui est plus équilibré entre l'animal et le végétal. C'est ce que vous avez également dans le petit camembert à côté, avec la partie production animale aux alentours de 30%, tout ce qui va être collecte à pro, donc la collecte, on collecte 1 200 000 tonnes, et puis le chiffre à côté sur la nutrition animale, on fabrique 1 300 000 tonnes d'alimentation animale. Le chiffre d'affaires, tout ce qui est distribution en grains phytosemences, c'est 14% de notre chiffre d'affaires, et on est présent dans le lait également, avec aux alentours de 10% du chiffre d'affaires. C'est vrai que tout ça, ça fait des gros chiffres, mais je pense qu'en fait, sans le savoir et sans penser tous les jours à Terrena, pour ceux qui sont dans la région, vous nous voyez régulièrement. Pour ceux qui sont dans d'autres régions de France, il est possible que vous pensiez à nous de temps en temps, puisque quand vous achetez un beurre paysan breton, il n'y a pas que Terrena dans l'alliance, puisqu'il y a également Even et Triskalia dans une société commune qui s'appelle l'AITA maintenant. Mais quand vous achetez du paysan breton, Terrena pèse à peu près 30% des volumes laitiers de collecte de paysans bretons. Quand vous achetez une volaille douce France, c'est également Terrena, ou gastronome, c'est également Terrena à 100%. La viande rouge tendrait plus. Festival des pins avec la meunerie au niveau des Vosges. Alors on retrouve également, on est présent dans le vin, ce qui fait la richesse d'un groupe coopératif comme Terrena. On est le reflet de notre territoire. Vous voyez qu'on est très présent dans ce qui a pu être appelé le jardin de la France. La douceur angevine, ce n'est pas pour rien. Donc, on va trouver dans toutes nos activités énormément d'activités. On est présent dans les plantes à bulbes, on est présent dans les sions de pommiers, on est présent dans la production de semences, on est présent dans tout ce qui fait la filière et la diversité des filières des pays de la Loire et du Poitou-Charentes. Dans l'accompagnement, on est présent sur le machinisme agricole également, sur tout ce qui va être. On doit être la plus grosse concession de John Deere au niveau français. Et puis dans tous les services qui nous permettent d'accompagner nos agriculteurs. Alors, si ça veut bien passer. Vous voyez, c'est une coopérative importante, du coup, la diapositive reste bloquée. Bon, ça passe comme ça. Donc, le choix de l'agriculture écologiquement intensive, donc on pourra en parler longtemps d'un point de vue sémantique. Je pense que l'agroécologie est assez proche. Mais je vais faire juste une petite définition juste après. Maintenant, pourquoi on a choisi l'agriculture écologiquement intensive? Trois grandes raisons. La première, c'est que pour anticiper des évolutions inéluctables. Donc ça, c'est ce que vous retrouvez à peu près partout. L'introduction du rapport Guillou y fait également référence. Que ça soit la diminution des surfaces agricoles, que ça soit la demande mondiale liée à la démographie, que ce soit l'augmentation du coût des intrants, que ce soit la préparation de l'après-pétrole, que ce soit le changement climatique, tout ça concourt à ce que, de toute façon, on a un certain nombre d'évolutions, qu'on le veuille ou non, qu'il faut prendre en compte dans nos systèmes agricoles. Ensuite, et ça c'est un élément important, c'est pour répondre, et on est une coopérative, avant tout et surtout, aux attentes des agriculteurs. Alors je ne vais pas passer, ou m'étendre très longtemps sur cet aspect-là, mais effectivement, ce projet est né d'une crise, alors il en faut peut-être parfois pour faire naître des projets. 2007, on a la crise des OGM, Terena met 35 hectares de production de semences en place, on en récolte 7, les autres ayant été ramassés par des faucheurs volontaires. Et forcément, ça provoque un certain débat dans l'entreprise. Ça avait été un choix du conseil d'administration assumé. Et on organise avec nos agriculteurs 35 débats et une consultation assez large pour discuter à la fois de ce débat des OGM de façon très saine et puis de dire finalement qu'est-ce que vous, agriculteurs, vous attendez de votre coopérative sur le modèle agricole. Et ces débats qui ont été vraiment très très sains, et à la question est-ce que vous attendez de votre coopérative des solutions alternatives, la réponse, vous l'avez en deuxième ligne, en deuxième point, une demande de solution pour diminuer l'utilisation des produits phytosanitaires 84% et les engrais chimiques à 89%. Donc ce qui traduit une attente des agriculteurs à ce qu'on a appelé l'agriculture raisonnée, à ce qu'on a appelé dans un contexte un petit peu plus contraignant à cette époque-là, avec un terme qui était né de Michel Griffon, l'agriculture écologiquement intensive. Et puis en tant que coopérative, on est là pour valoriser la production de nos adhérents. Donc bien sûr que notre objectif dans tout ce qu'on va mettre en place et dans tout ce qu'on met en place, c'est d'aller jusqu'au consommateur et à la valorisation ultérieure de la production de nos adhérents, et bien sûr en allant jusqu'à la grande distribution, ce qui est le cas sur un certain nombre de nos filières. Donc ça nous a amené à créer une structure, une société spécifique qui s'appelle Terena Innovation pour aller capter cette innovation autour de cet agriculteur, de cette nouvelle agriculture, pour être encore plus présent dans les domaines, c'est ce que vous avez en haut sur la recherche. Alors, la définition, c'est une citation qui paraîtra peut-être un peu mercantile, mais qui précise bien aussi le positionnement d'une innovation dans une structure coopérative, mais elle vaudrait dans un certain nombre d'autres structures. La recherche, c'est de faire de la connaissance avec de l'argent. Donc, bien sûr que Terena a besoin de connaissances et de s'appuyer, et on n'est pas là pour refaire ce qui peut être fait ailleurs. Donc, on a un certain nombre de partenariats avec un certain nombre de fournisseurs, avec un certain nombre d'instituts ici présents. Notre travail, c'est de créer et d'identifier, d'abord d'identifier, ensuite de créer des solutions techniques innovantes pour nos agriculteurs et d'en faire des innovations. Alors, c'est là où ça devient un peu mercantile, mais ça permet de voir qu'on ne vit pas non plus que d'amour et d'eau fraîche et que quand on fait un service, il est quelque part payant. Et s'il n'est pas payant, même s'il n'est pas payant directement par l'agriculteur et qu'il le paye d'une façon ou d'une autre, si on ne lui donne pas de valeur, il n'en a pas. Et c'est ce que ça veut dire ici, produit, service, conseil, avec de la connaissance, et c'est le positionnement de Terena et de Terena Innovation, qui est cette structure de recherche spécifique. Alors là, oui, vous avez plein de choses qui ont été écrites. Je vous invite à lire la prose de Michel Griffon, qui fait d'ailleurs dans son dernier ouvrage La comparaison, où la précision sémantique des différentes terminologies liées à cette agroécologie, agriculture écologiquement intensive, agriculture intégrée, etc., etc. Si je le résume, c'est quoi ? C'est il nous faut produire plus avec moins et mieux, ou plus et mieux avec moins. Donc bien prendre en compte dans nos axes de production cette logique d'impact et en intensifiant les fonctions écologiques. Et comme on est aujourd'hui au Comifer et au GEMAS, et notre analyse, elle est de se dire que quand même le point de départ, c'est quand même le sol. Et que l'expression de la fertilité, que l'expression du potentiel de production, si on s'intéresse à ce qu'on a pu voir, un certain nombre d'innovations pour mesurer le potentiel de minéralisation, ça reste un potentiel. Après, est-ce qu'il s'exprime ce potentiel et comment on exprime ce potentiel, c'est notre rôle en termes de développement agricole de pouvoir accompagner nos agriculteurs sur ce dossier-là. Alors pourquoi on en est particulièrement sensible? Si on fait un petit retour pour ceux qui ne connaissent pas la région de façon un petit peu caricaturale, on pourrait séparer l'ensemble de la région, présence de Terena, en deux grandes parties, ce qu'on pourrait appeler l'Anjou noir, des sols plutôt acides, plutôt fragiles, sur des altérites de schiste ou la fin du socle granitique, et puis l'Anjou blanc, où on rejoint une part de la diagonale aride, avec ces plateaux calcaires qui viennent mourir en Poitou-Charentes et jusqu'à la mer. Alors bien sûr, à l'intérieur, il y a plein de diversités qu'on sent à peu près de même nature que celles qu'on a en Bourgogne, avec des petites terres, des terres profondes, etc., des terres plus ou moins fragiles. Et il n'est pas rare dans nos situations, et dès maintenant, vu qu'on prend un petit peu d'eau, alors la façade atlantique, c'est 800-850 mm, jusqu'à Niort, on est à peu près du même ordre de grandeur en termes de millimètres d'eau, et puis sur la façade est, on va descendre à 550-600 mm d'eau. Et donc, on a eu une année très pluvieuse, ça c'est des images du début de l'année, mais dès maintenant, on pourrait quasiment constater ça dans un certain nombre de parcelles. Pour ceux qui ne voient peut-être pas, ici, ce n'est pas un étang, ce n'est pas un lac, ce n'est pas le lac du Der pour ceux qui sont de l'Est, c'est une mare en plein milieu de la parcelle. Si on regarde un petit peu plus près, ce n'est pas forcément des grandes mares de cette nature-là, je ne sais pas si vous voyez très bien au fond, mais on a des affleurements d'eau dès qu'on a un phénomène de compaction, et c'est ce qu'on a ici. Et ces phénomènes-là, ils vont limiter, même si j'ai une super teneur en matière organique, si potentiellement j'ai une bonne capacité de minéralisation, vous imaginez bien que derrière, ma plante, ça ne va pas tout à fait bien se passer. Donc là, c'est au stade précoce. Quand on avance, voilà ce qu'on peut avoir. Donc forcément, on peut parler d'AEI dans ces situations-là. On peut parler de fuite d'azote. On peut parler de couvert. Il se passe forcément quelque chose à cet endroit-là. Et c'est forcément pas très bon pour l'environnement. Alors, de quels moyens on dispose pour accompagner et éclairer l'agriculteur sur ces situations-là? Alors, il y en a qui ont des bonnets rouges. Nous, on a des bonnets noirs. Donc, pour ceux qui le connaissent, et au moins le deuxième groupe qui nous a rejoint, ils reconnaîtront peut-être Laurent Varvoux, qu'on met régulièrement dans une fosse pour, à des fins pédagogiques, en groupe ou individuel, expliquer ce qui se passe, comment ça circule, qu'est-ce qui circule mal, etc. Mais on ne mettra pas des bonnets noirs partout. Mince, hop, zut. Voilà comme quoi les bonnets noirs peuvent provoquer la contestation aussi. Bon, je ne sais pas si je vais y arriver. Hop. Où c'est passé. Hop, ça ne veut pas y aller. Bon, vous voyez le bonnet noir. Hop, c'est reparti. Les magies et donc les fosses. Et donc on a besoin, et ça a toujours été un élément important pour le développement, d'utiliser des outils d'aide à la décision pour développer et rendre accessible un certain nombre d'informations au plus grand nombre d'agriculteurs. Donc au niveau des plantes fumures, ça a été Epicles pour l'entreprise, avec aujourd'hui 260 000 hectares qui sont pilotés avec un plan de fumure Epicles. 90 000 hectares qui sont faits avec Farmstar. Et au niveau des analyses de terre, on en fait... sur la partie uniquement en grande culture, à peu près 8500, avec 7 hectares en moyenne par parcelle, ça nous fait pas loin de 60 000 hectares qui sont pilotés avec une analyse de terre tous les ans. Donc les OAD sont des bons vecteurs. Alors maintenant, si on s'intéresse un peu plus à l'analyse de sol, je ne sais pas si un certain nombre d'entre vous, certainement vous l'avez fait, de regarder, ici on s'est penché que 20 ans en arrière, donc on est en 93 sur la gauche, et puis on va en 2013 sur la droite. Bon, ça change un peu, il y a un peu plus de couleurs, mais si on regarde dans le fond, la plupart de nos indicateurs, ils existaient. Et pour les plus expérimentés, je pense que si on remettait 20 ans en arrière, on n'a pas tant que ça, on a quelques glissements sur des techniques analytiques, mais finalement, dans l'interprétation et dans les outils qui sont à notre disposition en tant que technicien, pour conseiller un agriculteur et démultiplier, on n'en a pas tant que ça. Alors, vous avez eu un certain nombre de thèmes où il y a pas mal de choses qui foisonnent. Et la demande derrière, c'est que si on n'a pas ces indicateurs, on ne mettra pas des bonnets noirs partout, on ne pourra pas faire des fosses partout pour accompagner et prendre en compte ce potentiel et révéler l'ensemble du potentiel aux agriculteurs. Donc il y a ce besoin d'innovation. Ce besoin d'innovation pour évaluer cette fertilité, physique, chimique, biologique, les trois ensemble, l'un pouvant inhiber les autres, je ne sais pas si c'est si simple que ça, pour prendre les bonnes décisions. Et puis appréhender des nouveaux systèmes, ça a aussi été présenté, des approches systémiques. Si jamais uniquement une interculture une année, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en cumulé? Les essais de longue durée de type TB sont assez informatifs. L'essai longue durée de Boineville et quelques rares autres essais longue durée montrent que même si ponctuellement on peut voir des choses, l'aspect cumulatif d'un système, l'installation d'un système, ça peut prendre un petit peu de temps. Et pour ça, je pense qu'on a aussi, et c'est dans le projet de Terena, de remettre l'agriculteur au cœur d'un certain nombre de nos dispositifs et que nos dispositifs expérimentaux classique, type petite parcelle, on a vu quelques exemples avec des bandes, etc., et bien, ils doivent aussi s'adapter et se réimplanter dans la réalité de l'agriculteur. Est-ce qu'on peut le mettre en place? Est-ce que c'est réalisable par un agriculteur? Et donc, dans la démarche peut-être un peu singulière de Terena, on les a appelés les sentinelles de la terre. Ce sont des agriculteurs qui font partie de nos réseaux d'expérimentation et sur lesquels on va mettre en place des dispositifs. On va prendre une part du risque avec eux, qui va être assumé, de façon à mesurer l'impact, la faisabilité des différentes techniques qu'on va être amené à leur proposer, soit à des phases très en amont de recherche, soit à des phases, au contraire, proches du développement, pour bénéficier du réalisme d'un agriculteur qui va communiquer sur ce qu'il a fait. Voilà, je vous remercie de votre attention en cette fin de journée.
Merci.